Le faiseur de monde présente le nouveau cycle de Yom, livre 1er, Angebashan, épisode 2. On dit qu'avant de mourir, on revoit toute sa vie défiler devant ses yeux, en quelques secondes. Andresh Varatunan n'allait pas mourir, en tout cas peut-être pas tout de suite. Il a quand même vu défiler devant ses yeux, non pas toute sa vie, mais ces dernières années, depuis son arrivée à Angebashan. Lors de son arrivée sur l'île, la ville, au loin, qui apparaissait le matin parfois dans la brume, ses grandes tours, brillantes, les unes à côté des autres, avait été son objectif. C'était son objectif. Puis il avait rapidement oublié. Les jardins l'avaient happé. C'est que, dans l'échelle sociale qu'il allait découvrir, 4 ans plus tard, en accédant enfin à la ville, il y a un cran en dessous des plus miséreux de la ville. Il y a les paysans, ceux qui travaillent dans les jardins. De même que passer du moins un au premier, généralement vous ruine, et donc votre fortune n'est pas représentative de cette ascension sociale. De même, on vit beaucoup mieux dans les jardins qu'en étant corvéable à merci, au moins 3 d'une tour, sans rien posséder, même pas ses meubles, qui de toute façon pourriront ou seront emportés quelques années plus tard. On ne peut même pas parler de la difficulté du travail. Évidemment, les paysans travaillent en plein air, en plein soleil, sous la pluie, des travaux de force. Mais généralement, quand on est au moins 3 d'Angebashan, les travaux que l'on fait sont aussi des travaux manuels, dans la pourriture, la promiscuité, la chaleur étouffante de la ville. Pas mieux. Non, les plus miséreux de la ville ne sont pas forcément moins à plaindre que les paysans. Simplement, ils peuvent espérer grimper, alors qu'un paysan restera un paysan. Toute sa vie. Voilà pourquoi, il y a 3 ans, le droit de citoyenneté avait été comme un miracle pour Andresh, qui avait fini par ne plus y croire. Il avait ramassé ses quelques affaires, on lui avait vaguement décrit l'enfer putride où il allait vivre, en lui disant que tout était fourni, puisque de toute façon, à la première mousson un peu importante, il perdrait tout. En plus de ses quelques vêtements, il avait tout de même pris sa vaisselle, ce qui allait changer sa vie, sans vraiment qu'il puisse s'en rendre compte. Direction, une pièce pourrie, 8 mètres carrés, au moins 3, de la tour Siforgen, du clan Viraen Prenom, le clan des éboueurs. D'où l'odeur encore plus immonde qui régnait dans les bas étages à cause du travail que faisaient ses voisins. Auquel il échappa. Trop intelligent, il pouvait aller chercher du travail bien plus qualifié et donc rapporter plus au clan, qui décida ainsi de l'exempter des corvées. Il rapportait de toute façon beaucoup plus en allant travailler même pour un autre clan. Le quartier de New Deran était presque à la limite de la ville, au nord-est, eh bien, logiquement, vers la décharge de Sianva. Le souci, c'était les horaires. Lui travaillait normalement, mais ses voisins commençaient beaucoup plus tôt le matin. Il avait du mal à dormir correctement, avec le bruit qu'il faisait quand il partait, bien avant l'aube. Sa chance, ce fut son voisin, un vieux chinois, Dong Hengzi, qui lui acheta cette vaisselle pour la donner à sa fille, qui vivait dans un autre quartier, avec un travail presque enviable, vendeuse, dans une boutique. Elle pouvait espérer grimper et un jour passer au-dessus du niveau plateforme. Lui travaillait à l'organisation. Ils avaient donc des horaires normaux, tous les deux, et purent discuter un petit peu. C'est Dong Heng qui lui expliqua tout ce qu'il fallait savoir dans la ville en échange de cette pauvre vaisselle. Et il y en avait des choses à savoir. Des règles non écrites. La plupart a assimilé très vite la première journée, car ne pas les suivre, pour beaucoup, était fatal. Par exemple, la première nuit, avec l'odeur et la chaleur étouffante, il fallait bien surveiller les horaires pour ouvrir les fenêtres. Entre 2 et 4 heures du matin, chaque tour était fermée hermétiquement. Les habitants calfeutraient bien les fenêtres et il y avait des patrouilles pour bien calfeutrer les portes. Car toutes les nuits, entre 2h et 2h30, les tuyaux jaunes qu'Andresh avait vus au niveau plateforme, vers l'eau, crachaient les insecticides qui empêchaient les moustiques de se reproduire. Une demi-heure. Puis il fallait compter au moins 1h30 pour que ce poison ne fût plus un problème pour les humains. À partir de 4h, ceux qui étouffaient le plus pouvaient donc entre-ouvrir la fenêtre, l'odeur âpre n'était plus fatal pour eux, juste désagréable. Les crash-la-mort, comme on les appelait, qui tuaient n'importe qui, se baladaient au niveau de l'eau, et même parfois au niveau plateforme, après 2 heures du matin. Les habitants de New Deran, qui faisaient les ordures, partaient vers 4 heures, et étaient habitués à cette puanteur qui finissait par ne plus leur racler la gorge. Mais beaucoup d'habitants regardaient ces tuyaux avec méfiance, car il y avait parfois des fuites, et il arrivait régulièrement, en journée, que quelqu'un se trouve à mal, voire que tout un quartier connut de nombreux morts à cause d'un nuage qui s'était échappé, non prévu. Andrzej les regardait avec crainte, mais il y en avait partout, impossible de les éviter sur les passerelles ou sur les balcons le long des immeubles. Puis quelqu'un lui avait raconté, tout comme on lui avait parlé de Venise, de ces gens très riches qui allaient faire du sport l'hiver en montagne sur quelque chose que l'on appelait la neige, ou, de la même manière, des tuyaux sortaient du sol. Mais cela était fait pour fabriquer la neige, pour que les riches puissent s'amuser. Cela avait aidé Andrzej à regarder différemment les tuyaux jaunes et à finalement ne plus s'en soucier. Ensuite, il y avait bien sûr les clans, les quartiers, les tours. Andrzej avait trouvé très stupide qu'un quartier ne prenne pas le nom de son clan. Ça aurait été plus simple. Enfin, ça faisait partie de l'histoire. Les quartiers avaient été nommés bien avant que les mafias ne s'installent. Donc il fallait savoir, même si le calme régnait, à quel clan appartenait tel quartier, car les règles étaient parfois différentes d'un endroit à l'autre sur des petits détails. Par exemple, à certains endroits, il était interdit de fumer, sans que l'on sache bien si c'était moral ou si c'est parce qu'il y avait des activités avec du gasoil, de l'essence, des gaz, toutes ces choses bien pourries, interdites ailleurs et qu'on en utilisait encore aujourd'hui. Typiquement pour les bateaux qui faisaient la navette un petit peu partout. On lui avait parlé de Venise avec cette comparaison. Des ponts entre certains quartiers, mais pas tous. En effet, les passages qui avaient été creusés dans les appartements au niveau 5 des immeubles parfois donnaient sur de l'eau. Il n'existait pas de passerelles de chaque côté des immeubles. Et parfois des quartiers entiers n'étaient accessibles que par 2 passerelles ou 3. Outre qu'il fallait parfaitement connaître le plan, il fallait aussi connaître le trajet de ces fameux bateaux qui permettaient d'aller d'un endroit à l'autre beaucoup plus facilement que par les passerelles. Il y avait 3 compagnies, tenues par des Philippins. On disait qu'ils étaient frères, on ne savait pas trop si en réalité ils travaillaient tous pour le même ou s'ils étaient réellement en concurrence. Des gros bateaux, avec des numéros et des couleurs bien vives, rouge, bleu et jaune, pour les repérer les uns les autres et savoir quel trajet ils faisaient. Trajet totalement erratique, très très loin de la ligne droite. Chacun s'était battu pour s'arrêter à l'endroit où il y avait le plus de monde, à l'endroit où il y avait le plus de boutiques, et quand 2 des 3 compagnies s'arrêtaient sur un bâtiment, la 3e ne s'y arrêtait pas. Les plans étaient ainsi assez compliqués, et parfois il fallait passer d'une compagnie à l'autre pour aller exactement à l'endroit où l'on souhaitait. Tout le temps il fallait apprendre à jongler. Les quartiers musulmans, pas question d'y passer pendant la prière. Et pour le quartier des adorateurs du soleil, pas question d'y aller la nuit. L'autre interdit qu'il avait appris rapidement, c'est que New Deran était proche du quartier Nishima, du clan Medersan, tenu par le Niwashi, le jardinier en japonais. Oh, il avait bien appris à connaître son nom, du temps où il était dans les jardins, enfin, surtout de Lord Dev, son acheteur. Il possédait toute l'île, le Niwashi. Enfin, en réalité non, c'est simplement qu'il avait le droit exclusif de tout ce qui était produit sur l'île. Quiconque à Angebashan voulait manger des produits de bonne qualité, qui n'avait pas connu les produits chimiques, ni les longs transports, et donc qui venait de l'île elle-même, était obligé d'acheter au Niwashi, parce que tous les paysans, dans les jardins, étaient obligés de lui vendre. Toute la récolte. Ils n'avaient même pas le droit de consommer ce qu'ils produisaient. En échange, ils étaient payés, et plutôt bien payés. Pour chaque sac de riz, par exemple, du bon riz, que l'on aurait dit à une époque bio et sain, local, il recevait 3 sacs qui venaient du continent, qui avaient voyagé et que l'on avait fait pousser dans des conditions qu'il valait mieux peut-être ne pas savoir. En échange, Lord Dev ramenait à son maître du riz local d'excellente qualité que se partageaient tous les riches d'Angebashan. Pas d'export, pas besoin. Les quantités n'étaient pas suffisantes pour fournir le marché intérieur. Les prix grimpaient régulièrement en fonction de la qualité des récoltes. Parfois, au marché noir, on trouvait des fruits. On racontait que le Niwashi faisait exprès d'en laisser circuler certains de cette manière-là, permettant à quelques privilégiés qu'il avait choisis de se faire un petit peu d'argent, et surtout laissant, par la qualité du fruit, la renommée de ses produits continuer à irriguer la ville. Parce que pour le reste, ni boutique, ni restaurant. Personne n'avait jamais goûté le fameux riz. Personne ne savait même combien il coûtait. Seuls les grands pontes l'avaient à leur table, et cela passait directement des entrepôts du Niwashi à leur cuisine. Tout comme Niuderan était au bord de la ville pour faciliter le transport des éboueurs, le quartier Nishima était au bord de la ville pour permettre un accès facile aux bateaux qui pouvaient faire le tour du lac intérieur à ces entrepôts. Pas d'inquiétude quant à l'interdiction d'aller à ces endroits-là, il n'y avait pas de passerelle. Par contre, la livraison des fruits et légumes se faisait tous les jours entre midi et 14h, et donc tout le quartier Nishima était interdit pendant cet horaire-là. Et le clan Medersan était richissime. Et le Niwashi était le seul à ne pas habiter très haut dans une tour, mais au contraire, une petite maison traditionnelle qu'il avait construite sur une tour qu'il avait fait niveler au 7e étage. Personne ne l'avait jamais vu. On racontait même qu'il ne vivait pas ici, qu'il vivait toujours au Japon. En tout cas, ce quartier-là était un quartier purement japonais, et l'on savait qu'ils étaient riches et extrêmement puissants. Un autre endroit à éviter, l'espèce de plateforme que l'on appelait Go Live. Il y avait plusieurs moyens d'arriver à Angebashan depuis les jardins. À un moment, on avait même construit un pont qui avait fini par s'effondrer. Restaient simplement les piliers. Les arrivants clandestins, que ce soit des paysans ou des espions, avaient l'habitude de passer par là, le jour ou la nuit. C'était plus facile. Ils arrivaient ainsi à nager de pilier en pilier, car les restes en étaient restés dans l'eau, pouvant ainsi non seulement se cacher, mais aussi se reposer. La distance était de plus d'un kilomètre à cet endroit. Nager un kilomètre, c'était pas à la portée de tout le monde, et c'était surtout risqué de le faire à la vue de tous, au risque de se prendre un coup de fusil. C'est donc un endroit qu'il valait mieux éviter. On y faisait beaucoup de commerce, souvent du commerce un petit peu louche, mais on pouvait facilement être considéré comme un guetteur ou un complice de quelqu'un qui voulait soit arriver, soit partir discrètement. Mieux valait éviter cet endroit tant qu'on n'avait pas un certain statut social. Pour les nageurs officiels, avec un vrai contrôle, que ce soit à l'arrivée ou au départ, il y avait le chenal, l'endroit où la ville était le plus proche des jardins. 700 mètres tout de même. On avait bien coulé une vieille barge au milieu pour servir de relais, il fallait quand même faire 350 mètres sans s'arrêter. Là non plus, n'était pas à la portée de tout le monde. Alors il fallait payer. En trois points différents. Il y avait des embarcadères avec des navires qui partaient des jardins vers la ville. Et là, comme Andrech, vous pensez trois points, trois compagnies de navigation philippines. Raté. C'est le Niwashi qui gère ce qui se passe en bateau entre les jardins et la ville. Ça lui permet d'avoir la haute main sur les marchandises, de vérifier qu'il n'y a pas de produits agricoles qui devraient lui revenir, et ça lui assure un autre revenu confortable. Tous ceux qui ont essayé officiellement ou de nuit discrètement avec des barques ne sont jamais arrivés de l'autre côté. Toutes ces subtilités, plus la spécialité des différents clans, le jeu, l'informatique, le développement des jeux virtuels qui font fureur dans le monde, la fabrication d'alcool, la drogue, toute activité qui se fait à la fois en ville, mais aussi à l'extérieur. Par exemple, le mercenariat. Ainsi du clan Citeos, qui a des mercenaires un petit peu partout dans le monde et qui fournit de temps en temps des tueurs ou des hommes de main en ville. D'où les cadavres que les éboueurs du quartier Niuderan retrouvent parfois flottant à la surface au petit matin et dont ils savent, c'est un code, s'il a ses chaussures ou non, s'ils doivent l'embarquer discrètement avec les ordures ou au contraire le laisser flotter là pour que tout le monde, au jour levant, puisse le voir et savoir que quelque chose était arrivé. Bref, toutes ces subtilités qu'il fallait assimiler très vite pour pouvoir espérer faire son trou en ville. Andrech avait rapidement trouvé du travail. Un travail plutôt bien rémunéré, qui lui permettait, en mettant un peu d'argent de côté, de pouvoir, peut-être en un an et demi, passer au moins deux. Le calendrier lui était favorable. La dernière grande mousson qui avait submergé le moins trois avait eu lieu il y a un an. Normalement, cela arrivait tous les 3-4 ans. Il espérait pouvoir éviter cela. En attendant, il tissait des liens avec Dong Hengzi et récupérait ainsi toutes les informations que le vieux chinois avait glanées pendant tant d'années qu'il vivait dans cette ville bizarre. Tout ça pour un vieux verre cabossé, deux assiettes guère mieux et quelques couverts. La vie tient parfois à peu de choses. Parce qu'Andrzej avait décidé d'emmener ça, malgré tout, et avait ainsi offert presque toute sa fortune à son vieux voisin pour la fille de ce dernier, voilà qu'il avait accès à les informations de première main. Il pouvait aussi se sentir moins seul. Dans les jardins, il y avait une certaine solidarité entre les paysans. En ville, là au moins trois, entouré de gens qui le regardaient bizarrement, car eux étaient éboueurs, ils trimaient toute la journée, alors que lui avait trouvé un travail dans un bureau, il se sentait parfois seul.